by best friend.
Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre fidélité au Monde Aujourd'hui, présenté ce matin par Nanit Talami. Il est 5h30 en temps universel. Les titres de cette édition du lundi 30 septembre 2024. Ouverture d'un procès en France pour Eugène Rwamoussio, ex-médecin accusé de génocide au Rwanda. Nouveau drame de l'immigration, 48 migrants disparus au large des Canaries après chavirement de leur embarcation. Au Moyen-Orient, après la mort de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, Israël vise des cibles des chefs des rebelles Houthis au Yémen. Dans notre section magazine, nous reviendrons sur le coup d'État présumé au Bénin. À suivre en sport, reprise du championnat au Bénin, Koto Sport et AS Cotonou démarrent fort avec des victoires écrasantes. Ce sera juste après la minute écho, mais tout d'abord le journal. Le premier voyage en Afrique de la présidence de Joe Biden aura lieu en Angola du 13 au 15 octobre. Le président américain va visiter le futur chantier, la réhabilitation d'une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo, ainsi que la construction d'un embranchement vers la Zambie. Les 1300 kilomètres de rails de ce couloir de Lobito vont acheminer sur la côte atlantique du cuivre et du cobalt. En recevant en décembre son homologue angolais João Lourenço à la Maison-Blanche, Joe Biden a qualifié ce projet de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Un nouveau procès lié au génocide des Tutsis au Rwanda s'ouvre en France. Un ancien médecin, Eugène Rwamoussio, comparaît à partir de mardi devant la cour d'assises de Paris. Il est poursuivi pour ses agissements pendant et avant les massacres de 1994. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Praticien en France et en Belgique après son départ du Rwanda, Rwamoussio est le 8e Rwandais jugé en France pour sa participation au génocide des Tutsis instigé par le gouvernement Hutu. Jusqu'au 29 octobre, il sera jugé pour génocide, complicité de génocide, crime contre l'humanité et complicité de crime contre l'humanité, ainsi que pour entente en vue de la préparation de ces crimes. Il est reproché à Eugène Rwamoussio d'avoir soutenu et relayé les mots d'ordre des autorités nationales, incitant la population à s'en prendre à la minorité Tutsi dans la presse de propagande Hutu et lors d'un discours à l'université de Butare dans le sud du pays le 14 mai 1994. Selon des témoins, Rwamoussio, alors médecin enseignant à l'université, aurait aussi participé à l'exécution de blessés et à l'enfouissement de corps dans une fosse commune. Des accusations que Eugène Rwamoussio nie. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Le Rwanda a enregistré 6 décès et 20 cas de maladie de Marburg, selon le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana. La plupart des victimes sont des professionnels de la santé. Cette maladie, une fièvre hémorragique virale dont le taux de mortalité est élevé, provoque des symptômes tels que les maux de tête, vomissements et douleurs musculaires. Le Sénégal a débuté une révision des contrats signés avec des partenaires étrangers, comme l'a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye. Un comité travaille à inventorier ces accords. Monsieur Faye a insisté sur la nécessité d'une équité, surtout dans des secteurs stratégiques comme le pétrole et le gaz. Il a également évoqué la souveraineté du Sénégal, sans cibler spécifiquement la France, tout en affirmant l'importance de la langue française comme héritage culturel. M. Faye a exprimé son souhait de diversifier les relations avec divers partenaires en respectant la souveraineté des pays de la région qui choisissent de se tourner vers d'autres puissances comme la Russie. Les Émirats arabes unis ont condamné l'attaque de la résidence de leur ambassadeur à Khartoum par un avion militaire soudanais, la qualifiant d'attaque odieuse qui a causé d'importants dégâts. L'armée soudanaise n'a pas répondu à ces accusations. Au moins 48 migrants sont portés disparus au large des Canaries et sont toujours recherchés par les secours espagnols. Leur embarcation a chaviré selon les secours. Les précisions de John Lindon.
News spend me migrant narration. L'accident s'est produit à environ 7 km au sud du port de l'Aïstaka sur l'île d'El Hierro durant les opérations de secours déclenchées après un appel des migrants eux-mêmes au service de sauvetage. L'embarcation a chaviré alors que la plupart de ses occupants s'étaient regroupés sur un côté, selon les secours. D'après le gouvernement espagnol, l'embarcation avait pris la mer à Nouadhibou, en Mauritanie. Concernant les personnes qui se sont noyées, il est peu probable que nous puissions retrouver davantage de corps dans les prochaines heures, a estimé samedi soir le président de la région des îles Canaries, Fernando Glavijo. Selon des sources proches du gouvernement, 90 occupants pourraient s'être trouvés à bord de l'embarcation, ce qui porterait le nombre des disparus à plus de 50 personnes et le nombre de morts à plus de 60. Début septembre, le naufrage d'un bateau de migrants avait fait au moins 39 morts au large du Sénégal. Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant de dangereusement... Je prends la phrase...
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a mené des raids hier contre les fiefs du Hezbollah au Liban. Près de 60 personnes ont péri dans ces frappes qui interviennent après celles de vendredi qui ont tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les précisions de Gabi Dorsil.
Israël a dit avoir attaqué des dizaines de cibles terroristes du Hezbollah, dont des sites de lancement de roquettes et des installations militaires. Hier soir, elle a soutenu avoir mené environ 120 frappes supplémentaires de grande envergure dans le sud du Liban et ailleurs dans le pays. Des raids ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth, où Hassan Nasrallah a péri vendredi dans une frappe israélienne. Lors d'une opération baptisée Ordre Nouveau, l'armée israélienne affirme avoir tué, avec Hassan Nasrallah, plus de 20 commandants présents dans le quartier général souterrain du Hezbollah sous des bâtiments civils et qui dirigeaient les opérations contre Israël. La ligne de Nasrallah se poursuivra et son objectif sacré sera réalisé avec la libération de Jérusalem, a affirmé l'Iran qui finance et arme le Hezbollah. Sur un autre front, Israël a mené des raids meurtriers contre les cibles des rebelles Houthis au Yémen au lendemain d'un tir revendiqué par ses insurgés pro-iraniens vers l'aéroport de Tel Aviv. Une guerre totale au Moyen-Orient doit être évitée, a déclaré le président Joe Biden, après avoir qualifié la mort de Nasrallah de « mesure de justice ».
Aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Helene s'est alourdi dimanche à au moins 93 morts. En Caroline du Nord, l'État le plus touché, le bilan s'élève à 37 morts, dont 30 dans le seul comté de Buncombe. Au moins 25 personnes ont péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 11 en Floride, 2 dans le Tennessee et 1 en Virginie. Dimanche, la Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden se rendrait dans les zones touchées dans les jours à venir. Le candidat républicain Donald Trump doit quant à lui se rendre ce lundi à Valdosta, une ville de Géorgie touchée par l'ouragan. Les deux candidats à la vice-présidence des États-Unis, J.D. Vance et Tim Walz, s'affrontent demain mardi lors d'un débat télévisé. Le sénateur républicain de l'Ohio, colistier de Donald Trump, et le gouverneur démocrate du Minnesota, colistier de Kamala Harris, ont tous deux été choisis pour aller chercher l'électorat du Nord et du Centre, d'où ils sont originaires. J.D. Vance, 40 ans, et Tim Walz, de 20 ans, son aîné, ont des personnalités radicalement opposées et se sont déjà affrontés dans une campagne à la rhétorique très acrimonieuse. La dernière centrale au charbon du Royaume-Uni doit officiellement fermer ses portes ce lundi, mettant un terme à l'utilisation de ce combustible dans sa production d'électricité. C'est une première par un membre du G7. La fermeture de l'établissement, inaugurée en 1967, est une étape symbolique dans l'ambition de Londres de décarboner son électricité d'ici 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Rosine Mounezero.
Au Sénégal, Lat Diop, PDG de la LONAS, ministre des Sports sous le président Macky Sall, a été écroué après avoir été inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent dans ses fonctions passées de patron de la Loterie Nationale, a dit son avocat. Lat Diop a été écroué jeudi soir, le jour où le premier ministre Ousmane Sonko promettait des enquêtes contre les anciens dignitaires pour la corruption généralisée. Le gouvernement ougandais prévoit de réduire les dépenses d'un peu plus d'un cinquième et les emprunts nationaux d'un peu plus de la moitié au cours de l'année fiscale 2025-2026, a déclaré le ministère des Finances vendredi. Le gouvernement affirme que les emprunts ont été utilisés pour stimuler la croissance économique qui a été plus rapide que celle de beaucoup de ses pairs africains depuis la pandémie de Covid-19. Plusieurs médias accusent les grandes compagnies pétrolières d'opacité sur les rejets nocifs pour l'environnement liés au torchage, un procédé qui consiste à brûler sur place le gaz naturel issu de l'extraction du pétrole. Parmi les plus grands pollueurs, la compagnie algérienne Sonatrach figure en haut du classement. Également parmi les 10 premières compagnies, les Britanniques BP et Shell, les Américains ExxonMobil et Chevron ou encore la Française Total Energy.
Merci Rosine pour ces informations économiques. Place à présent aux actualités sportives présentées ce matin par Élisée Oukpatin. Bonjour Élisée, bonjour à tous.
Bonjour Danita et bonjour à tous.
Le football en salle d'abord. Le Maroc s'arrête en quart de finale du mondial de futsal en Ouzbékistan.
Oui, les Lions de l'Atlas ont été battus par le Brésil 3-1 dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Une fois encore, les champions d'Afrique n'ont pas pu passer cette étape des quarts de finale comme il y a 2 ans en s'inclinant une nouvelle fois devant la CLSAO.
Autre mondial de foot en salle, le Maracana, qui se poursuit à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Avec les matchs de poule et hier, victoire du Brésil 4-2 face au Mali, du Canada 4-3 devant les États-Unis et de la Belgique 3-2 contre le Cameroun. Au programme ce lundi, Bénin-Guinée, France-Jamaïque, Togo-Burkina Faso et Sénégal-Guinée-Bissau. Précisons que 15 pays, dont 9 représentants africains, sont en compétition pour cette première édition de ce mondial du Maracana.
Sur le gazon à présent, c'est la reprise du championnat au Bénin.
Oui, Nanit, une nouvelle saison et un nouveau format, mais toujours avec 36 clubs, cette fois repartis dans 2 groupes de 18. Et dans la poule A, le champion en titre, Coton FC de Ouida, démarre fort en infligeant un 3-0 à la Jeunesse sportive de Kétou. Belle entame aussi pour AS Cotonou, vainqueur 3-0 de Sitatunga. Dans le groupe B, le vice-champion, Dadier FC d'Aplaroué, a été accroché 1-1 à domicile par l'AS Tonnerre de Boïcon. Victoire en revanche des Cavaliers de Niki, 1-0 à Bani Kouara sur la pelouse de Bani Gansé. Et puis 3-0 en faveur de Damissa qui recevait Real Sport de Savé.
Pour terminer, Élisée, parlons à présent de distinction et au Togo. La sélection nationale de beach volley a été sacrée meilleure équipe sportive collective de l'année.
Oui, par l'Association des journalistes sportifs du pays, lors de la prestigieuse nuit du mérite sportif qui fêtait ses 50 ans d'existence. Moment de fierté pour le président de la Fédération togolaise de volleyball, Noël Kokou Tadeon, de s'exprimer sur ce prix honorifique.
Vous ne pouvez pas imaginer ma joie, ma fierté de recevoir ce trophée de la meilleure équipe nationale du Togo, toutes disciplines confondues. Il y a 2 ans, quand nous prenions les rênes de la Fédération togolaise de volleyball, ce n'était pas évident. On avait beaucoup de difficultés. Certains parlaient que le volleyball était à l'agonie. Mais nous y avons cru avec rigueur, avec persévérance, avec transparence. Nous avons travaillé avec des joueurs qui aussi ont pris conscience des réalités. Le Togo était donc dans les 20 premiers Africains en beach volley, mais par le travail, par l'abnégation, nous sommes 4e en Afrique. Ça veut dire que oui, le travail paie toujours et on va toujours continuer par mettre dans notre vision l'excellence. Et je crois que le beach volley et le volleyball togolais en général ira encore loin et retrouvera son lustre d'antan.
Noël Kokou Tadeon, président de la Fédération togolaise de volleyball. Et puis, une note de rugby pour terminer. L'Afrique du Sud a remporté la championship, le tournoi des pays de l'hémisphère sud, grâce à sa victoire 48-7 sur l'Argentine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Le Hezbollah a confirmé la mort de plusieurs de ses commandants, dont Hassan Nasrallah, son chef de longue date, dans une frappe israélienne. Un officier supérieur des gardiens de la révolution en Iran, le général Abbas Nilforoshan, a aussi été tué lors de la même frappe sur le quartier général central du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a promis que sa mort ne resterait pas sans réponse. Yacouba Ouedraogo a joint à Beyrouth Michel Touma, éditorialiste au site Ici Beyrouth.
Il est évident que Israël a des moyens technologiques de renseignement, de surveillance, ou par satellite ou par drone, ou des réseaux d'informateurs sur le terrain, et des moyens surtout d'intervention rapide qui mettent en jeu des moyens et une capacité vraiment très développée. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont, disons, facilité l'opération du 27 septembre. Ça, c'est un. Deux, il y a un contexte politique global qui a permis cette opération.
Comment le Liban réagit?
Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que cette guerre-là, dans laquelle le Liban est plongé depuis un an, c'est une guerre qui a été déclenchée d'une manière totalement unilatérale par le Hezbollah, alors que la population libanaise était déjà confrontée à une crise socio-économique et financière et politique sans précédent. Il a déclenché cette guerre sans consulter le commandement de l'armée, sans consulter le gouvernement et sans consulter les principaux partis et leaders du pays. Et en plus, l'objectif déclaré de cette guerre était de réduire la pression sur Gaza et de soutenir le Hamas. Or, ce sont deux objectifs qui sont totalement étrangers aux Libanais. Donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils devaient être entraînés dans cette guerre pour des objectifs qui ne les concernent pas. Et même de plus en plus, et pas seulement dans les milieux chrétiens, sunnites et druzes, même dans les milieux chiites, il y a un très large ressentiment à l'égard du Hezbollah et aussi à l'égard de l'Iran. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour s'interroger sur la position de l'Iran. Ils se sentent un peu lâchés par l'Iran.
Avant la mort du patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a eu d'abord le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, qui a été tué à Téhéran. Comment l'Iran va réagir suite à la mort de ces deux leaders maintenant?
L'Iran ne veut pas et ne peut pas se laisser entraîner dans une confrontation directe avec Israël. D'abord parce qu'il y a un gouffre au niveau de l'équilibre des forces entre l'Iran et Israël. Et surtout, l'Iran ne veut pas d'une confrontation directe avec Israël parce qu'ils ont peur d'une contre-attaque israélienne contre les infrastructures militaires et nucléaires, surtout, de l'Iran, sur lequel ils se lancent depuis 20 ans. Ils demandent à leurs alliés de eux réagir.
Qui sont ces alliés-là?
Le Hezbollah, le Hamas, la mobilisation populaire en Irak et des milices chiites en Syrie.
Quel futur pour le Hezbollah après la mort de son chef Hassan Nasrallah, justement?
Il faut aussi savoir que le Hezbollah a été, avant la mort de Hassan Nasrallah, la cible d'abord d'une longue série de liquidations de hauts responsables et de cadres supérieurs et de cadres moyens. Alors cette longue série d'assassinats, de liquidations, a ébranlé toute la structure, tout le commandement du Hezbollah. Alors, quel avenir maintenant? Ça dépendra d'abord de l'attitude de l'Iran. Parce qu'il faut comprendre que le Hezbollah, ce n'est pas tant un parti libanais, et c'est ce que beaucoup de Libanais lui reprochent, que un des paramètres de la stratégie régionale de l'Iran. Et que le Hezbollah, c'est un de l'instrument privilégié des pasdaran iraniens. Donc, et ce sera en fonction de ce que vont décider les Iraniens qu'on pourra connaître un peu l'avenir du Hezbollah. Surtout pour la désignation du successeur de Hassan Nasrallah. C'est une décision qui sera prise vraisemblablement à Téhéran.
Michel Touma, éditorialiste au site Ici Beyrouth.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, le supposé coup d'État déjoué remet sur le tapis l'épineuse question de la succession de Patrice Talon, qui est à moins de 2 ans de la fin de son second mandat de 5 ans. Même si les acteurs politiques se refusent toute déclaration et préfèrent rester dans la limite des communiqués linéaires de leur parti, il est clair qu'au Bénin règne une ambiance faite de suspicions de non-dits et de méfiance. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Depuis la sortie mercredi 25 septembre du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme annonçant les raisons pour lesquelles trois proches du chef de l'État ont été arrêtés, les langues refusent de se délier, en tout cas pas de façon audible. Edmond est un jeune cadre de l'administration béninoise. Il se demande pourquoi organiser un coup d'État alors que le mandat de Patrice Talon tire à sa fin.
L'univers de la politique peut être sinueux, il faut faire beaucoup attention parce que même ses propres amis peuvent toujours trahir. Mais ce coup d'État n'a pas le droit d'avoir lieu parce que ça n'a pas d'importance, d'autant plus que le président de la SS quittera ses fonctions dans quelques mois. Pourquoi encore se faire arrêter pour rien?
De son côté, Léa, qui travaille dans une banque de la place, n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si ce coup d'État avait eu lieu le 27 septembre dernier, selon les propos du procureur. Elle préfère penser qu'il s'agit d'un jeu, car selon l'éducation qu'elle a reçue, les amis ne sont pas censés se trahir.
Arrêtez, jusque leur histoire de coup d'État, c'est juste un jeu. C'est juste un jeu pour brouiller les pistes. Parce que comment se fait-il que Omeki, Boko et consorts veuillent faire quitter Talon? Ça sent bien que c'est leur ami. C'est un jeu de dames.
Au lendemain de la déclaration du procureur, les partis soutenant le chef de l'État ont à travers des communiqués dénoncé la tentative réitérant le soutien au président de la République. Selon Nathanaël Coty, acteur politique, cette histoire est une véritable leçon pour tous.
Quelqu'un qui travaille bien, qui gagne à la sueur de son front. Quand on l'appelle dans une affaire de tentative de coup d'État, il fuit et il crie au secours parce qu'il sait comment il fait pour gagner de l'argent et pour nourrir sa femme, ses enfants, ses parents. La jeunesse doit se mettre au travail et cesser d'être jouisseur. C'est une leçon pour nous tous. Je prie que demain on nous dise, après vérification, après les enquêtes, c'est vrai, ce n'était pas, on s'est trompé, ils sont libres de leur mouvement.
Pour d'autres Béninois, si coup d'État il y avait, cela viendrait de loin, certainement pas du camp présidentiel. Oswald Omeki a été l'un des premiers soutiens du Patrice Talon. Il a même lancé la mobilisation qui a permis en 2016 de payer la caution du candidat Talon pour les présidentielles. Mais il y a quelques mois, il a donné sa démission, soutenant ouvertement Olivier Bocop pour 2020. Au cours d'une intervention à la télévision nationale, le chef de l'État a évoqué ses griefs contre son ancien ministre.
Comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui est commencée à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être celui le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer.
Olivier Bocco est si discret qu'en 8 ans de gestion de pouvoir par son ami, on l'a vu rarement. Pour le moment, les démocrates, le principal parti de l'opposition, présidé par l'ancien président de la République, Boni Yayi, n'a fait aucune déclaration. Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique, Cotonou.
VOA Afrique en direct de Washington. Le premier ministre sénégalais accuse le régime de l'ancien président Macky Sall de détournement de deniers publics, de falsification de chiffres et d'avoir mis l'économie du pays à terre. Ousmane Sonko parle d'une situation économique catastrophique que démentent les responsables de l'ancien régime. De Dakar, la correspondance de Wani Johnson Sombou.
De possibles poursuites judiciaires contre des dirigeants de l'ancien régime, y compris l'ex-président Macky Sall et son ancien premier ministre Amadou Ba, Ousmane Sonko tente ainsi d'illustrer l'ampleur de ce qu'il qualifie de corruption généralisée. En conférence de presse jeudi, le premier ministre avance des chiffres à donner le tournis. Ousmane Sonko.
Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret de défense pour échapper aux règles des marchés publics. Toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie à des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources.
Des accusations qui ont suscité l'indignation de l'opposition, dont certains membres y voient une stratégie de diversion en vue des législatives de novembre prochain. D'autres, comme Yorodia, ancien ministre conseiller de Macky Sall, accusent Sonko de salir l'image du Sénégal.
Il n'a qu'à le prouver.
Mais c'est lui qui le dit, il n'a qu'à le prouver. 2500 milliards, c'est presque la moitié du budget du Sénégal. Comment cet argent peut-il disparaître? Sonko a voulu détruire l'État du Sénégal de l'extérieur et n'a pas réussi. Il essaie de le détruire de l'intérieur. Et il vient de gagner une grande bataille dans sa guerre contre le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, partout dans les milieux financiers du monde, la cote du Sénégal a baissé parce qu'ils ont entendu le Premier ministre du Sénégal dire de façon officielle et solennelle que le Sénégal est un État faussaire. Quoi qu'il en soit, la sortie d'Ousmane Sonko a laissé la place à une grande polémique entre politiques et de passionnantes discussions entre experts. Mais pour Mor Amar, analyste, la posture de Sonko peut être vue sous trois angles.
D'abord, on va vers des élections législatives. Il faut fragiliser l'adversaire qui se trouve être le principal accusé dans cette affaire. D'autre part, on vient d'une élection présidentielle. On a tenu pas mal de promesses. Il faut essayer de se justifier auprès des Sénégalais pour montrer pourquoi on ne peut pas tenir ces promesses. Enfin, sous le dictat du FMI principalement, on va prendre des mesures d'austérité et ça aussi, il faut les justifier. Le gouvernement est juste dans une logique de justifier ces différentes mesures.
Les passes d'armes entre Ousmane Sonko et l'opposition accentuent davantage la tension qui règne au Sénégal à moins de 2 mois des législatives. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement sanctionne les entreprises défaillantes au terme de l'évaluation de l'état d'avancement des projets routiers. D'après le ministre des Travaux publics, les chantiers routiers piétinent parce que plusieurs entreprises n'ont aucune surface financière pour la réalisation des travaux et présentent de ce fait des cautions virtuelles. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Vous avez notre 13 milliards, combien?
Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, sermonne un représentant d'une entreprise chinoise lors de la revue des 62 projets routiers en cours au Cameroun.
Veuillez leur dire qu'ils sont censés ne plus être là et qu'ils ont 13 milliards de fonds publics pour rien. Quand je dis 13 milliards de fonds publics pour rien, vous comprenez ce que je veux dire?
L'entreprise en question peine depuis 5 ans à livrer 70 km de route devant relier Ngaoundéré à Paro, dans la partie septentrionale du pays. Yves Bertenga Dimessi, chef de mission de contrôle de ce projet.
Cette entreprise ne donne pas satisfaction depuis. Elle a souvent eu à émettre des difficultés de paiement, des tensions de trésorerie, malgré le fait qu'elle a eu des paiements au-delà de son avancement des travaux. Mais à date, l'entreprise n'arrive pas encore à trouver des solutions pour donner satisfaction aux maîtres d'ouvrage.
Ailleurs, les entreprises font face aux contraintes sécuritaires, comme dans les deux régions anglophones ou encore pour la reconstruction de la route entre Mouradabanga et Kousséri, voisine au Tchad, dans la région de l'extrême nord. Mais une première entreprise contractualisée a lancé les travaux sur cet axe névralgique. Emmanuel Bouni, chef de mission de contrôle.
Les travaux ont bel et bien débuté. Nous sommes actuellement à 12% et nous avons bénéficié de la protection d'une unité créée par une convention entre le MINTP et le MINDEF, le DESAT, dispositif d'appui aux travaux. Nous embauchons un peu tardivement parce que nous avons des estafettes sur le terrain, vérifier le terrain, est-ce qu'il n'y a pas de mines antipersonnelles, est-ce qu'il n'y a pas de pièges. Et quand l'estafette revient au chef de mission que je suis, peut décider d'ordonner le début des travaux ou alors de ne pas travailler ce jour.
En tout, 8443 km de route sont soit en cours de construction, de réhabilitation ou d'entretien périodique au Cameroun, mais le changement climatique, d'après le ministre des Travaux publics, impacte les infrastructures routières. Emmanuel Nganou Djoumessi.
Le 14 août dernier, un remblai d'une route en construction s'est affaissé, bien que partiellement, donnant lieu à une entaille importante sur la chaussée. Récemment, nous avons connu un déséquilibre. Un pont sur le Danaï. 16 ponts se sont effondrés dans l'arrondissement de Massor-Saint-Loulou, faisant en sorte que cet arrondissement soit désormais entièrement isolé du reste du pays. Les eaux ont envahi la chaussée de la Nationale 5 entre Douala et Consamba depuis cette nuit et la circulation y est extrêmement laborieuse.
Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Et voilà qui conclut notre journal pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur VOA Afrique. À la présentation, Nanit Talani. À la mise en onde, Cheikh Thiero. À la technique, Kelvin Fowler. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet voaafrique.com. Je vous souhaite une excellente journée.